Chapitre 47. La distribution de tracts par Charcot avait porté ses fruits. Un homme et une femme se tenaient assis l'un à côté de l'autre face au glaive, qui tapait un résumé de la situation sur sa machine à écrire, tout en poursuivant leur audition. L'homme avait appelé la permanence le jour de Noël, après être tombé sur le tract dans un débit de tabac. La femme, quant à elle, avait téléphoné tôt dans la matinée. Tous les deux avaient reçu la lettre du méticuleux. Alain Glichard comptait bien s'occuper de ses témoins en urgence et leur avait demandé de passer au plus vite pour déposer, munis d'une photo d'identité et de leur carnet d'adresse. Ils étaient arrivés presque en même temps. Le procédurier avait alors organisé une audition groupée. Il avait ressorti les PV de Philippe Vasquez et Marc Lampin. À présent, il fallait trouver le point commun entre ces quatre personnes et comprendre pourquoi elles avaient été choisies par le tueur. Donc vous, Catherine Martinage, vous habitez un appartement au 8 rue de Navarin dans le 9e. Vous avez 39 ans, vous êtes mariée et avez deux enfants. Vous êtes dentiste et avez découvert le courrier à votre nom le mardi 10 décembre.
Oui, c'est ça.
Vous, Bruno Laroche, vous avez 51 ans, vous êtes veuf et vivez au 23 rue Eugène Varlin dans le 10e, à deux pas de la gare de l'Est. Vous êtes chef de chantier dans le bâtiment. Comme Madame Martinage, vous avez trouvé le courrier le 10. Au soir, en rentrant chez moi, oui. Et vous m'assurez que vous ne vous êtes jamais vus tous les deux. Ils se scrutèrent l'un l'autre, puis secouèrent la tête. Le glaive termina sa saisie et leur montra deux photos d'identité. Et eux, déjà vus? Lui s'appelle Philippe Vasquez et lui Marc Lampin. Prenez votre temps. Même réponse négative. Le policier s'intéressa à la femme. Expliquez-moi ce qui s'est passé avec l'enveloppe qui vous était destinée. Allez-y doucement le temps que j'écrive.
Mon mari l'avait posée sur la table. J'ai lu la lettre. Quand il a fallu deviner un prénom, j'ai pensé à Thérèse et j'ai suivi les instructions. J'ai ouvert le livre à la page indiquée, cherché le vers. Ça parlait d'une Delphine et d'une Hippolyte. Je dois vous avouer qu'on n'a pas compris grand-chose non plus quand on a lu la seconde lettre. Mon mari a cru à une mauvaise plaisanterie et a tout jeté à la poubelle, même le livre. Puis on a vite oublié cette histoire. Jusqu'au tract que j'ai vu ce matin chez mon boulanger. Alors je vous ai appelé comme indiqué.
Vous avez bien fait, répliqua le glaive quelques instants plus tard. Et vous, monsieur Laroche? Contrairement à sa voisine, l'homme avait tout gardé et tout rapporté. Les lettres, l'exemplaire des fleurs du mal neuf, les timbres de collection Albertville 92, oblitérés dans un bureau de poste du 3e, le samedi 7 décembre à 11h49. Je me souviens de m'être dit que c'était bizarre, mon adresse tapée à la machine comme ça. Ensuite, en lisant, j'ai eu le sentiment que l'auteur du courrier me connaissait. Pour le prénom, c'est Simone qui m'est venu en tête. C'était celui de ma femme. Comme Madame Martinage, la suite m'a paru obscure et j'ai imaginé que ça devait être une espèce d'arnaque. J'ai tout mis de côté et voilà. Alain Glichard se leva et ajouta deux croix rouges sur le plan de Paris punaisé au mur. À ce jour, en comptant Vasquez et Lampin, ils avaient identifié quatre destinataires, et les quatre adresses se trouvaient dans la même zone de la capitale, 9e, 10e et 18e. Des arrondissements voisins dans les alentours de la gare du Nord. Quant aux croix bleues représentant les bureaux de poste où les lettres avaient été oblitérées, elles étaient situées dans d'autres arrondissements, 3e, 11e, 20e, eux aussi mutuellement limitrophes. Deux groupes de croix distincts, comme si le méticuleux avait déposé ses courriers loin de ses cibles, histoire de brouiller les pistes. Le glaive réfléchit. Il n'était pas stupide de penser que leur assassin puisse habiter dans l'un de ces deux secteurs. Finalement, ils avançaient peut-être. Il revint vers ses interlocuteurs.
« Vous êtes dans l'annuaire, je présume ?»«
Pas moi, » répondit Catherine Martinage. « On est sur liste rouge. Avec mon métier, c'est une nécessité pour éviter que mes patients n'appellent à mon domicile ou n'obtiennent mon adresse. »
Glichard se rassit au ralenti, heurté par cette information primordiale. Le méticuleux n'avait donc pas choisi des gens au hasard dans le bottin.
Très bien, exposa-t-il avec calme. Vous ne vous connaissez pas, mais je crois qu'il y a néanmoins un point commun qui vous unit, non seulement vous, mais aussi les hommes dont je vous ai montré les photos. Ça peut être un endroit que vous fréquentez, un club, un établissement bancaire, une école dans votre jeunesse, un magasin où vous faites vos courses, un contact dans votre répertoire. Vous voyez, le champ est vaste. Je vais donc vous poser tout un tas de questions pour essayer de trouver ce point commun. Répondez au plus court, chacun votre tour, ça sera plus efficace. Si ce n'est pas concluant, il est possible que j'aborde des sujets de l'ordre de l'intime, auquel cas je vous entendrai individuellement. Vous avez bien compris ? Ils acquiescèrent.
Glichard ouvrit le PV de Philippe Vasquez et s'en servit comme ligne directrice pour son interrogatoire. Cette fois, il n'allait pas taper à la machine. Il déclencha un magnétophone pour gagner du temps. « Allons-y, vos lieux et dates de naissance. Saint-Laurent-du-Var, le 6 juillet 1952.
Poitiers, le 25 avril 1940.
Depuis quand vivez-vous à votre adresse actuelle ?»«
Il vous faut la date exacte ?»«
Faites au mieux. » »«
Ça remonte à 7 ans, printemps 1984. »«
Hiver 1979 pour moi. » »«
Donnez-moi les différentes villes et départements où vous avez vécu depuis votre naissance. » Le glaive poursuivit inlassablement. Souvent, ses interlocuteurs ne savaient plus, leur mémoire leur jouait des tours. Au bout d'une heure, Bruno Laroche éprouva le besoin de fumer la pipe et de se dégourdir les jambes. Le procédurier en profita pour apporter des cafés et des verres d'eau, et ils reprirent après une pause.
« À présent, passons au répertoire. Prenez le vôtre, Madame Martinage, et énumérez chaque nom en indiquant le rapport que vous entretenez avec cette personne. Si un de ces noms vous suggère quoi que ce soit, Monsieur Laroche, vous le signalez. »
Le glaive savait que ce serait fastidieux, mais ça en valait la peine. Ces calepins contenaient toute la vie sociale et professionnelle des gens. Et pourtant, l'heure et demie qui s'écoula à tout passer en revue ne révéla aucun lien entre cet homme et cette femme. Ils vivaient dans deux mondes distincts, sans connexion. On approchait déjà de midi. Les interrogés se tordaient sur leurs chaises inconfortables, dans un bureau qui ne l'était pas moins, soupiraient de plus en plus, mais Alain Glichard ne voulait pas les lâcher. Quelque chose les unissait, ils devaient mettre le doigt dessus. Comme ils vivaient dans des appartements, à l'instar de Vasquez et Lampin, le procédurier fouina de ce côté-là. Voisinage, événements remarquables dans l'immeuble, ça ne donna rien. Il leur demanda ensuite de lister leurs activités, les lieux où ils partaient en vacances. Avait-il un animal de compagnie, un véhicule, dans quel garage emmenait-il ce dernier pour son entretien ? Rien. Il fit alors sortir l'homme, referma la porte, coupa l'enregistrement et rassura Catherine Martinage.
Je suis inspecteur de police et ce que vous me direz restera entre vous et moi. Il est important que vous répondiez honnêtement.
Il la questionna sur des sujets plus délicats. Elle n'avait aucune aventure extra-conjugale, pas de problème sexuel particulier. Elle ne reconnut aucun des enfants nus sur les photos qu'il lui présenta. Il fit de même avec Bruno Laroche, mais ne décela pas de pistes concrètes. Et il devait bien l'admettre, lui aussi commençait à fatiguer.
« Ça n'a peut-être rien à voir, » fit Laroche, « mais je me suis souvenu d'un truc en attendant dans le couloir. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des immeubles. »
Le glaive se pencha en avant, soudain tout ouïe.
« Oui ?»« J'ai vu les calendriers accrochés au mur plus loin, près des toilettes. Dessus, il y a le nom d'une entreprise de serrurerie. »
« Et ?»«
Ça m'a rappelé qu'il y a au moins 3 ou 4 ans, j'avais eu un souci de cet ordre. Mon verrou était grippé, il ne fonctionnait plus correctement. J'ai contacté un professionnel. »
Glichard eut l'impression qu'un feu d'artifice explosait dans son ventre.
Un serrurier, bien sûr.
Ne bougez pas. Il quitta le bureau d'un pas vif et, se postant devant la femme qui patientait avec son gobelet d'eau à la main, alla droit au but. Avait-elle fait appel à un serrurier pour son logement rue de Navarin ? Elle leva les yeux, silencieuse durant une poignée de secondes, puis acquiesça.
Oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites, ça m'était complètement sorti de la tête. C'était un été, l'été 88, je crois. Oui, c'est ça, juillet 88. Mes enfants étaient en colonie de vacances à Arcachon et mon mari était en déplacement plusieurs jours. Bêtement, j'avais oublié mes clés dans l'appartement et j'étais resté bloqué à l'extérieur.
Le glaive l'entraîna dans son antre. Elle regagna sa chaise et jeta un regard satisfait à son voisin. Ils allaient enfin pouvoir reprendre le cours de leur vie. Le policier glissa un nouvel ensemble de feuilles dans sa machine, tapa rapidement et s'adressa à eux.
On a trouvé. L'homme qu'on cherche, votre point commun, c'est un serrurier. Ce qui va suivre est extrêmement important. Est-ce que vous connaissez son identité ?
J'ai toujours un tas de prospectus de réparateurs chez moi, répliqua l'homme. À l'époque, il devait y avoir un serrurier dans le lot et je l'ai appelé. Mais c'est sûr que je n'ai plus ce papier. Ces trucs-là, ça va, ça vient.
Glichard interrogea Madame Martinage du regard.
C'est loin tout ça. J'étais coincé dehors, je suis allé sonner chez une voisine, on a consulté les pages jaunes. En réalité, pour être franche avec vous, je ne sais plus bien. Je n'avais jamais été confronté à une telle situation, alors j'ai certainement pris un nom au hasard.
Quelle page jaune ? Celle du 9e arrondissement ?
Elle haussa les épaules.
Il faudrait demander à ma voisine. Mais habitant le 9e, ce serait logique, en effet. C'est le bottin qu'on reçoit tous les ans. Et puis, il y a plein de boutiques de serrurerie dans le quartier. Autant que de boulangeries. À croire que c'est un business qui marche.
Comment avez-vous payé ce serrurier ?
Je paie très peu par chèque, donc ça devait être en liquide.
Il vous a laissé une facture ?
Je ne pourrais pas vous dire, mais même si c'était le cas, c'est sûr, je ne l'ai pas gardée.
Pas 3 ans plus tard.
Laroche, lui non plus, ne se souvenait plus de tout. Le glaive tenta de contenir son entrain. Il savait par expérience à quel point la mémoire pouvait être volatile et sélective. Ce qui leur semblait important, à eux, les flics, n'était, chez les auditionnés, que des faits parmi des dizaines de milliers d'autres. Il nota l'identité de cette voisine et posa des questions au sujet de la personne qui s'était présentée à leur domicile. Caractéristiques physiques, comportements. Bruno Laroche était simplement en mesure de dire qu'il s'agissait d'un homme. Catherine Martinage, elle, se rappelait un individu qui devait avoir autour de 25-30 ans. Assez jeune en tout cas.
« Je suis incapable d'être plus précise et de vous le décrire, » ajouta-t-elle. « Mais il avait une barbe toute noire. Je ne sais pas pourquoi j'ai retenu ça, sans doute parce que mon mari est barbu. »
Le procédurier consigna l'information. Il rageait de ne pas posséder davantage de détails, mais il avait néanmoins fait un pas de géant dans l'enquête. Il s'adressa à Laroche.
« Il faut que vous jetiez un œil à vos relevés bancaires de l'époque, afin de vérifier s'il y a la trace d'un paiement par chèque qui pourrait correspondre. Vous les avez toujours ?»«
Je les conserve, oui. » Comme les souches de tous les chèques que je remplis. Je vais ressortir tout ça. Faites-le aujourd'hui, s'il vous plaît. »
Le flic tourna la tête vers Catherine Martinage.
« Vous pouvez voir avec votre voisine au sujet de l'annuaire dès votre retour chez vous. Discutez avec elle. Regardez de nouveau la liste des serruriers. Peut-être que le nom du type ou de sa société vous reviendra. Et recontactez-moi directement. »
Il écrivit son numéro de téléphone sur 2 morceaux de papier et les leur tendit. Il leur fit signer les dépositions, leur serra la main et les raccompagna jusqu'à l'escalier. Après quoi, il passa une tête au 514 pour annoncer la nouvelle au reste de l'équipe, mais la pièce était vide. Le glaive regagna alors son bureau et tenta aussitôt de joindre Marc Lampin, qui ne répondit pas. Il laissa un message sur le répondeur. Il eut plus de chance avec Philippe Vasquez. Lui aussi avait sollicité les services d'un serrurier, mais comme les autres, ça remontait à au moins 5 ans et il se souvenait juste d'avoir utilisé son Minitel pour le trouver. Alain Glichard aligna les photos d'identité de ses 4 témoins face à lui. Un serrurier. Ça expliquait la facilité avec laquelle leur homme entrait dans les propriétés sans fracturer les issues.
« Ça y est, on te colle aux fesses et on ne va plus te lâcher, mon gars. »
Il se posta devant le plan de Paris et observa les croix autour de la gare du Nord. Bruno Laroche avait parlé de prospectus. Il imagina le méticuleux, quelques années plus tôt, parcourant les rues et glissant des affichettes dans les boîtes aux lettres pour faire la publicité de l'entreprise de serrurerie pour laquelle il travaillait. C'était ainsi que procédaient la plupart de ses artisans. Et ça signifiait, en toute logique, qu'il œuvrait dans ce coin-là, où y habitait, voire les deux. Au fil du temps, il s'était constitué une liste de clients qu'il avait précieusement gardée. Le glaive avait eu raison de s'acharner. L'expérience lui avait enseigné qu'il fallait souvent creuser profond pour déterrer l'os qui allait révéler le reste du squelette. En attendant ses coéquipiers, à qui il était impatient de faire part de ses découvertes, il alluma son Minitel et se connecta.